Les entrevues. Radio Shalom Bourgogne. 97.1 FM.
Chers auditeurs, chères auditrices de Shalom Bourgogne, j'ai le plaisir dans notre émission Gardien de mon frère de recevoir aujourd'hui Madame Corinne Biloué et Monsieur Jean Gascuel, qui sont psychologues cliniciens, référents d'un certain nombre d'activités, notamment en lien avec le centre hospitalier de la Chartreuse. Et nous nous rencontrons aujourd'hui pour parler de la création d'un groupe de parole pour des hommes victimes de violences sexuelles, que ces violences aient été subies dans l'enfance ou à l'âge adulte. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
J'aimerais déjà que vous nous expliquiez pourquoi ce groupe, comment il se situe dans votre pratique et dans l'histoire de la prise en charge des personnes en difficulté.
Alors, pour commencer, il existe déjà un groupe de parole qui est dédié aux femmes qui ont vécu des violences sexuelles dans l'enfance ou à l'âge adulte. Donc, ce groupe existe depuis 2014. Et suite à cette expérience et aux bénéfices que les participants de ce groupe peuvent retirer d'une prise en charge groupale, on a eu l'idée il y a 4 ans de proposer le même dispositif de soins, mais à destination des hommes, puisque l'actualité le montre aujourd'hui, les hommes peuvent être aussi victimes de violences sexuelles. Et à ce jour, il existe très peu de dispositifs à destination des hommes.
Tout à fait. Peut-être nous pourrions quand même brosser rapidement l'histoire et la méthode qui prévaut pour le groupe de parole pour femmes, puisque je vous expliquais qu'il y a, il y a un lien entre les deux. Peut-être faire un petit brin d'histoire et rappeler aussi pour nos auditrices, nos auditeurs, que ça existe et que c'est possible de rencontrer, d'aller dans des lieux qui permettent de s'occuper de soi dans des situations très difficiles.
Tout à fait. Alors, il y a 15 ans, le préfet de l'époque était impliqué dans le plan de lutte contre les violences faites aux femmes et avait sollicité tous les professionnels qui s'occupaient de victimes de manière à ce qu'on puisse travailler sur la question des violences sexuelles, des violences conjugales également. Et à l'issue de ce groupe de travail, qui a duré une année en 2013, un collègue infirmier et moi-même, on a proposé ce dispositif de soins.
Comment ce dispositif fonctionne et comment il...
Alors, le dispositif à destination des femmes, donc c'est un groupe de parole qui se réunit toutes les semaines, donc au centre hospitalier La Chartreuse, qui démarre en septembre, qui se termine en juin, et qui permet à ces femmes de travailler et d'élaborer autour des conséquences des violences sexuelles et donc des traumas que ça génère.
Alors comment les personnes arrivent chez vous? Parce que ce n'est pas facile de s'occuper de ces problèmes-là, de cette histoire-là.
Alors les personnes nous sont soit orientées par d'autres professionnels de santé, des médecins, des psychiatres, des psychologues, ou alors, effectivement, quand elles font des recherches sur Internet, elles trouvent la plaquette qui explique le dispositif. Et puis, il y a 3 ans, la communication de l'hôpital a réalisé 3 petites vidéos avec les participants du groupe de l'époque pour expliquer le fonctionnement de ce groupe de parole.
Très bien. Le recrutement, enfin, c'est pas un mot très joli, mais enfin, le recrutement donc, des personnes se fait uniquement au sein de la structure hospitalière où vous êtes, ou ça peut être ouvert à l'extérieur?
Non, le groupe, il est à destination de toutes les femmes qui pourraient en avoir besoin. Il est intersectoriel. Alors, je dis ça parce que la psychiatrie est sectorisée.
Oui, donc, c'est bien d'expliquer, voilà. Je pense, pour les auditeurs.
Donc, en fonction du lieu où l'on habite, on dépend de tel ou tel service sur l'hôpital, mais les personnes peuvent venir de n'importe où. Alors évidemment, quand elles viennent d'une autre région en France, c'est un petit peu compliqué, mais nous, on a des participantes à ce groupe qui viennent d'autres départements, faute de trouver là où elles habitent des dispositifs dont elles pourraient bénéficier. Donc c'est un groupe qui est ouvert à tout le monde. La seule contrainte, c'est de pouvoir être disponible le jour où se déroule le groupe.
D'accord. En tout cas, c'est important parce que c'est une prestation, dans le fond, pour tous les citoyens, tous les habitants de Dijon et de sa région, parce que je crois que c'est assez rare. Bon, visiblement, on ne faisait pas de problème de recrutement, malheureusement. Et peut-être que, d'ailleurs, ce type de groupe n'est pas assez connu, parce que je crois qu'il y a la partie visible de l'iceberg. Vous êtes bien placé pour le savoir. Oui. Et malheureusement, énormément de gens ont connu ce type de violence et n'ont pas la chance ou la possibilité de s'en occuper. Et ça a un impact, a priori, assez négatif sur leur parcours de vie. Donc, est-ce que vous pensez que ces choses peuvent se développer? Enfin, qu'est-ce qui explique que ça ne se développe pas plus? C'est une question un peu différente, mais que ça ne se développe pas plus dans notre société, alors qu'aujourd'hui, on en parle quand même plus librement, plus savamment qu'il y a quelques années.
C'est difficile pour toutes les victimes, c'est difficile de venir parler de leur trauma, de comprendre la nature du trauma, les conséquences du trauma. Et c'est encore plus difficile pour les hommes parce que, de par l'éducation, leur histoire, c'est difficile pour un homme de se définir en tant que victime. Donc c'est particulièrement un frein pour les hommes de venir aux soins et de venir parler de ce qui leur est arrivé.
Et ce qui leur est arrivé, ça peut être aussi des hommes violents avec des hommes. Il y a aussi cette question-là.
Alors, pour l'instant, on a plutôt des hommes... Enfin, pour l'instant, dans le groupe de parole pour les hommes, on a plutôt des hommes victimes.
Oui.
Victimes d'autres hommes.
D'autres hommes.
Généralement. Mmh. Voilà, on n'est pas... On n'a pas défini de critères particuliers. Si un homme a été victime de violence sexuelle de la part d'une femme, c'est beaucoup plus rare, mais ça arrive, et si ça arrive, il sera accepté dans le groupe, il n'y a pas de souci. C'est le statut de victime de violence sexuelle
qui définit l'entrée dans le groupe.
Voilà. Très bien. Que ça soit à l'âge adulte ou dans l'enfance. C'est-à-dire que la problématique incestuelle est aussi prise en compte.
D'accord. Peut-être dresser un peu le portrait de ce que sont ces violences, sans être dans les détails, mais de quoi parle-t-on derrière ce mot?
On parle de viol, on parle d'agression sexuelle et on parle d'inceste.
D'accord.
Mais dans le groupe particulièrement, que ce soit le groupe pour hommes ou pour femmes, les personnes sont libres d'exposer ce qu'elles ont vécu ou pas.
D'accord.
On travaille sur les symptômes, comme l'a dit Corinne. On travaille sur les symptômes, c'est-à-dire qu'on essaie d'aider les personnes à faire un lien entre des symptômes dont elles ne connaissent pas forcément le lien avec le traumatisme. On les aide à faire ce lien, parce que c'est une partie de la prise en charge et de la démarche thérapeutique que d'être capable de faire ce lien entre des symptômes et un événement traumatique.
Peut-être nous éclairer sur ce que vous appelez le symptôme.
Alors, les symptômes, ils sont larges, puisqu'on peut balayer toute la symptomatologie psychiatrique. Ça peut être des addictions, ça peut être des phobies, des TOC, des phénomènes dissociatifs, j'en oublie, de l'amnésie traumatique, bien sûr.
Des troubles alimentaires.
Des troubles alimentaires, des changements de personnalité,
induits par trauma. Des comportements professionnels. Ouais.
Voilà, des comportements à risque.
Des
de l'hypersexualisation, de l'hyposexualisation. C'est extrêmement large. C'est pour ça que souvent le diagnostic n'est pas forcément évident à faire.
D'accord. Donc, ce qui veut dire que si quelqu'un veut aller plus loin ou autrement individuellement, vous l'aidez à avoir une prise en charge spécifique, par exemple, sur telle et telle problématique ou sur son parcours?
Absolument. Toute personne qui fait partie du groupe de parole doit normalement avoir un suivi individuel avec un thérapeute, parce qu'en fait, le travail qui se fait en groupe et en individuel n'est pas de la même nature.
Quelqu'un peut rentrer chez vous sans le faire, ou c'est une condition pour entrer dans un groupe?
En général, c'est une forte suggestion. On peut obliger personne à faire quoi que ce soit.
C'est une nuance quand même importante.
Oui. On préconise beaucoup aux personnes d'avoir une prise en charge individuelle. Alors après, on peut rencontrer des femmes ou des hommes qui n'ont pas cette prise en charge. Et après, le groupe peut être un tremplin, effectivement, pour aller sur une prise en charge individuelle. Mais nous, on conseille fortement, effectivement, qu'il y ait les deux, parce que le groupe est complémentaire d'une prise en charge individuelle, mais ne remplace pas cet espace de travail individuel.
D'accord. Alors peut-être justement nous décrire un petit peu ce qui se passe dans le groupe, à quoi sert ce groupe, dans la dimension thérapeutique notamment. Peut-être nous éclairer un petit peu sur ce qui se vit, comment ça se vit, parce que c'est un peu mystérieux pour ceux qui ne connaissent pas ce travail.
Alors, dans les premières séances, je crois que le premier effet thérapeutique des premières séances du groupe, c'est de venir apaiser le sentiment d'abandon et de solitude. Parce que les victimes même si en théorie elles savent que, parce que l'actualité en parle, hein, même si elles savent qu'elles ne sont pas seules à avoir vécu ça, dans leur souffrance, elles se sentent très seules et très abandonnées par rapport à ce qu'elles vivent. Et d'être en présence d'autres femmes qui présentent les mêmes symptômes et les mêmes souffrances, ça vient, dans un premier temps, apaiser ce sentiment de solitude.
D'accord.
Voilà, c'est le premier effet, et qu'elles disent hein, d'ailleurs, le premier effet thérapeutique de ce groupe. Alors ensuite, nous, on leur propose un certain nombre de thèmes. Voilà, on va parler de la dissociation, on va parler des symptômes. Alors les symptômes, hein, comme disait mon collègue, ça peut être les diverses addictions, ça peut être les troubles alimentaires, hein, donc aversant boulimique ou anorexique. Ça peut être aussi des troubles hein, au niveau de la sexualité, au niveau relationnel, des phobies. Enfin bon, il y a effectivement un vaste champ de symptômes. Et donc, on leur propose d'échanger et de travailler sur la nature de ces symptômes, de faire le lien avec les traumas qu'elles ont développés. Et ça met du sens, effectivement, sur l'état psychologique dans lequel elles sont aujourd'hui et les événements subis par le passé. Et le fait d'y mettre du sens et d'identifier le pourquoi de ces symptômes, ça permet aussi de venir apaiser cette souffrance où parfois elles se disent ben, qu'elles ne sont pas normales, qu'elles sont bizarres, qu'elles sont parfois, elles le disent comme ça, hein, je suis devenue folle, je fais des choses très curieuses. Non, en fait, ce sont des symptômes qui viennent traduire la souffrance liée au traumatisme psychique.
Donc l'espace du groupe doit créer de la confiance, j'imagine, parce qu'il faut beaucoup de confiance pour pouvoir se livrer, entre guillemets. Ça se construit comment? Parce que vous avez des entrées, des sorties, j'imagine. Le groupe n'est pas un groupe permanent.
Alors,
avec
ça commence
les mêmes personnes.
Par voilà, les personnes qui s'adressent à nous pour faire partie du groupe, on les reçoit déjà ensemble dans un entretien préalable où on leur explique les objectifs thérapeutiques du groupe. On évalue avec elles si ce dispositif peut leur convenir. On évalue aussi la capacité à travailler en groupe, parce que le travail de groupe n'est pas la même chose que le travail individuel. Et si effectivement ce dispositif peut leur convenir, on leur propose de signer une charte éthique, que nous signons nous également, et qui engage à la confidentialité et à la bienveillance. Et nous, psychologues, on est garants de ce cadre éthique.
Très bien. Si les gens souffrent du fait que le ou les coupables n'ont jamais été... cette question-là n'a jamais été abordée parce que soit ils n'ont pas porté plainte, soit ils n'ont pas pu le faire, soit c'est trop loin dans le temps, etc. Comment vous... Enfin, est-ce que ça se parle? Et parce que ce n'est pas le lieu, évidemment, du traitement judiciaire et policier de l'affaire. Donc, comment ça se passe? Comment vous faites le lien? Parce que je pense qu'il peut y avoir de la colère. Pas que, mais aussi peut-être l'excès inverse, mais en tout cas du fait de savoir que le ou les coupables sont toujours vivants, se portent bien et parfois continuent d'ailleurs à agir de manière négative avec d'autres êtres humains.
Alors ça c'est un sujet dont on parle hein, parce que le sentiment d'injustice, la colère, la rage de l'absence de justice bien sûr existe et impacte hein. Donc on en parle parce que parfois effectivement il y a prescription, parfois l'auteur est inconnu, parfois les personnes ne souhaitent pas porter plainte hein, parce que déposer plainte était quand même un parcours difficile. On en parle et on en parle aussi dans le sens que oui, elles peuvent faire cette démarche, elles ont aussi le droit de ne pas la faire. Donc on travaille aussi sur le besoin de réparation, le besoin de reconnaissance et parfois, on fait intervenir un magistrat ou une professionnelle qui vient expliquer un petit peu la loi et puis les limites hein, de la loi, c'est-à-dire du droit des victimes. Et ça permet de donner un éclairage différent sur ce que la justice peut apporter et puis sur les limites de cette justice.
D'accord. Pour les hommes, vous parliez tout à l'heure de que pour les hommes, c'est encore plus difficile que pour les femmes. Pour des raisons culturelles, de transmission. Vous avez l'impression que les choses évoluent? En tout cas, les hommes que vous recevez, comment parle-t-il
Ça évolue tout doucement. Et ce groupe va vraiment... Il est formé, il existe formellement depuis 2 ans. Mais pour l'instant, on n'avait pas de candidat qui s'était présenté. D'accord. Et là, il va vraiment exister parce qu'on a un nombre suffisant de personnes qui viendront. Donc, ça veut bien dire une chose, c'est que petit à petit, les représentations dans le public de toutes ces agressions évoluent et que les hommes commencent à se sentir en droit de bénéficier d'une prise en charge et d'être aidés.
D'accord, et la question de la honte
Question de la honte et de la culpabilité sont toujours prégnantes dans toutes ces personnes, que ce soit les hommes et les femmes. C'est une thématique qui est très présente.
C'est le bouche-à-oreille, en fait, qui va avoir de l'importance, j'imagine.
Le bouche-à-l'oreille, les interventions comme la vôtre et d'autres font connaître ce dispositif qui permet aux gens qui le souhaitent, peut-être pas dans l'immédiat, mais ils entendent, l'idée fait son chemin et puis un jour ou l'autre, ils vont venir.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup dans les médias de ces questions-là. Il y a des chiffres, il y a du bruit, il y a beaucoup de buzz autour d'histoires bon, très connues, mais qui sont exploitées aussi de manière journalistique. Mais il n'y a peut-être pas tant d'endroits où les personnes concernées puissent rencontrer des professionnels et des gens qui puissent les aider. Ça ne paraît pas si simple, en tout cas.
Alors, à notre connaissance, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'endroits, mais d'un autre côté, certains doivent probablement faire des choses et communiquent pas sur ce qu'ils font et du coup on s'est pas connu ni du grand public ni même des fois des collègues d'autres villes donc c'est vrai qu'Internet de ce point de vue les médias permettent de faire connaître des actions mais ceux qui communiquent pas effectivement ils peuvent travailler faire du bon boulot prendre en charge des personnes de manière tout à fait efficace sans que ça se sache donc on peut pas préjuger non plus de l'étendue des actions qui sont faites pour prendre en charge les victimes. Il y a des choses qui se font.
Bon, en tout cas, pour les femmes victimes de violences conjugales intrafamiliales, il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Il y a des chiffres, il y a des choses assez sérieuses. Pour les auteurs de violences, c'est beaucoup plus compliqué, mais pour les personnes victimes, notamment les hommes, effectivement, notamment la question de des agressions des jeunes sur les jeunes, enfin, depuis la petite enfance jusqu'à la fin de l'adolescence, il y a très peu de chiffres et très peu d'études, peut-être des études très savantes, mais en tout cas, on n'en parle pas. Dans le deuxième niveau des médias, on n'en parle pas aujourd'hui. Alors, on sait que... Alors, on dit 1 sur 10, mais on sait que c'est beaucoup plus de garçons qui subissent de la violence, mais de la vraie violence, la violence très grave, depuis l'âge de 2-3 ans jusqu'à 18 ans. C'est un sujet qui me paraît tabou. De la même manière qu'on ne sait pas le nombre d'enfants qui meurent sous les coups des parents et des adultes. En France, on sait le nombre de femmes, on sait le nombre d'hommes victimes de violences conjugales, mais on n'a pas de chiffres précis, ce qui est très étonnant, contrairement à d'autres pays de l'Europe, concernant la violence subie par les jeunes, notamment l'agression des jeunes sur les jeunes. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, c'est un fait assez troublant. Voilà.
Tout à fait.
Donc, ce groupe de parole pour hommes, il faut arriver à peu près à combien de personnes pour que le groupe fonctionne ?
On s'est fixé 6 personnes, mais...
Dans l'idéal, c'est un groupe dans lequel il y aura 10-12 places. Et pour que ça fasse groupe, il faut qu'il y ait au moins 6-8 personnes. Voilà. C'est un groupe, ça nécessite une dynamique.
Une dynamique, oui. La plupart des gens sont très loin de ce qu'ils ont subi dans le temps, où vous avez vraiment des mélanges, toutes sortes de gens, toutes sortes de situations.
Alors, chez les hommes, ce qui émerge aujourd'hui, c'est effectivement les situations d'inceste. Hein, donc, les enfants étaient petits. Et puis, tout ce qui émerge depuis la médiatisation des abus sexuels dans l'Église. Hein, donc, et puis, les affaires récentes. Hein, donc, c'est plutôt effectivement des agressions qui ont eu lieu sur des enfants et des adolescents. Qui ne présage pas des agressions qui ont pu avoir lieu sur des adultes.
Oui, qu'on connaît moins, effectivement. On connaît moins. Les auteurs de violences conjugales,
dont
femmes.
On parle moins, oui.
Il y a des femmes qui commettent des crimes sur leur époux ou leur compagnon. C'est assez bien chiffré, d'ailleurs. En France, à peu près 15 à 20% des gens concernés par la violence conjugale. Chiffre connu, évidemment, répertorié par la police, la justice. C'est pas évidemment la réalité qui est certainement plus complexe. Et plus importante. Donc en fait, c'est un travail important parce que vous allez en fait retrouver des questions clés sur la période de l'enfance, notamment la question de l'inceste qui est loin d'être réglée, qui ne le sera peut-être jamais, j'en sais rien. Mais
qui est sûrement plus importante que ce qu'on peut en dire.
Semblerait d'après les livres, maintenant les études qui commencent à être faites un peu dans, en tout cas dans le monde occidental. Est-ce que les gens qui sont victimes d'inceste, par exemple, est-ce que dans les problématiques qu'ils vont connaître en lien avec ces événements-là, dans les hypothèses, est-ce que ces gens qui vont à nouveau se retrouver dans une sorte de répétition, ils vont continuer à subir? Est-ce que c'est des choses qu'on peut lire un peu?
C'est ce qu'on appelle la revictimisation, c'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui aura vécu l'inceste aura tendance à nouveau être victime d'agressions sexuelles tout au long de sa vie.
D'accord.
Oui, parfois.
C'est un facteur de risque.
Voilà, c'est un facteur de vulnérabilité. Le fait d'avoir été victime et d'avoir sous emprise, ça peut effectivement rendre vulnérable à ce type de situation.
Alors, quand on parle d'inceste à travers votre clinique, votre histoire clinique personnelle, et votre travail notamment en milieu hospitalier, c'est plutôt des mères avec des garçons, parce que là on parlait des hommes, ou est-ce que ça peut être aussi des pères ou...
Alors, moi, de mon expérience, hein, c'est plutôt des pères, des oncles, qui sont les auteurs des agressions sexuelles.
Ça resterait majoritairement des hommes, quoi.
Des hommes,
oui. C'est ce que vous constatez dans l'histoire de votre pratique.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas des situations où ce sont des femmes qui agressent, hein, mais moi, de mon expérience, c'est plutôt des hommes.
L'on dit que c'est un sujet extrêmement... pas tabou, mais extrêmement complexe, et peut-être où les choses ne peuvent pas se dire ou pas se traduire. Enfin, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Enfin bon, là on rentre dans une autre question qui nécessiterait une émission d'ailleurs sur l'inceste, parce que je pense que beaucoup de gens, nous sommes abreuvés d'informations qui sont parfois passionnantes, intéressantes, hein, mais en même temps beaucoup de gens se re-questionnent leur fort intérieur au quotidien en se disant mais... de quoi parle-t-on? Et puis moi, qu'est-ce que j'ai vécu et qu'est-ce que je vois autour de moi? Enfin bon, des choses qu'on pouvait d'ailleurs ne pas voir volontairement ou involontairement, ou ne pas comprendre, parce que c'est
parfois... L'inceste, c'est compliqué, parce que dans l'inceste, on imagine un passage à l'acte. Mmh. Or, l'inceste, ça peut être aussi se développer dans un milieu incestuel, où il y a un manque de limites, un manque de frontières et un non-respect de l'intimité de l'enfant. Et ça peut créer les mêmes symptômes que quand il y a des passages à l'acte.
Avec des confusions de génération.
Confusion de langue, confusion... confusion où l'enfant n'est pas respecté dans son intégrité, je dirais, physique et psychique. Ça peut être le cas de parents qui ne respectent pas l'intimité, où les portes ne sont pas fermées, où les parents peuvent rentrer dans la salle de bain alors qu'un enfant est en train de prendre sa douche. Un tas de comportements comme ça qui, en fait, rendent la relation incestuelle sans qu'il y ait un vrai passage à l'acte où là, on viendrait identifier une agression, mais des comportements qui viennent nier l'intégrité et l'intimité d'un enfant.
C'est intéressant.
Il y a une notion importante, je crois, c'est qu'il y a... Il y a un certain nombre de personnes qui ont vécu des situations incestuelles ou de l'inceste, mais plutôt des choses un peu à la frontière, un peu dans ce qu'on appelle maintenant une zone grise, qui ne sont pas en capacité de mettre un nom sur ce qui leur est arrivé, parce qu'on considère que, ou peut-être que dans le milieu familial, où c'est normal, voilà, c'est des choses qui se font. Et du coup, c'est comme ça que les choses se répètent de génération en génération. C'est important qu'à un moment ou un autre, les gens réalisent ce qui s'est vraiment passé, que ça n'aurait pas dû se passer et que ça ne doit pas se repasser. Elles ne doivent pas reproduire à nouveau à leur génération ce qu'elles ont vécu. Donc ça, c'est tout un travail sur mettre des mots sur les choses et lutter un peu contre ce déni qui parfois est un déni collectif.
Ça voudrait dire aussi que les personnes que vous rencontrez, est-ce qu'elles peuvent craindre aussi elles-mêmes de répéter quelque chose de cet ordre-là? Soit elles le masquent parce qu'elles ne peuvent pas en parler, soit parce qu'elles sont inquiètes elles-mêmes de la confusion dans laquelle elles seraient, y compris vis-à-vis de leurs enfants ou de leur entourage.
Alors parfois la confusion, la répétition, elle est inconsciente, parce qu'effectivement les choses ne se sont pas construites normalement et les personnes peuvent répéter certains comportements, mais de manière inconsciente.
Donc là, c'est compliqué, évidemment.
Donc là, ça nécessite effectivement un travail personnel et la possibilité, après, de pouvoir identifier les choses qu'elles ont vécues.
Très bien. Donc, mais est-ce que certains dans les groupes parlent de cette inquiétude-là, par ailleurs, pour ceux pour qui ça arriverait un peu plus à la conscience, Est-ce que vous avez rencontré des gens qui sont un peu angoissés par...
Oui, c'est une préoccupation qui est exprimée parfois, oui, bien sûr.
Oui, donc c'est quand même très important, ces groupes. Et comment ça se passe, la régulation? Enfin, parce qu'il y a peut-être des moments d'excès, des moments de pleurs, des moments d'expression un peu radicale de la souffrance ou de la colère. Comment ça se régule? Comment ça se passe pour que nous essayions de comprendre un petit peu ce moment assez extraordinaire d'une rencontre sur quand même quelque chose qui n'est pas simple et qui est qui peut être très désagréable?
Alors, nous, dans la proposition des thèmes qu'on propose, on y va aussi d'une manière un petit peu progressive. Et puis, on est garant de ce cadre-là. Les personnes qui sont dans le groupe ont signé une charte éthique dans laquelle elles s'engagent effectivement à la confidentialité, à la bienveillance, à l'absence de jugement. Et puis parfois, effectivement, hein, sur le plan émotionnel, ça déborde. Donc nous, on est là aussi pour apaiser les choses, pour
accueillir les émotions. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui, dans le groupe de parole, qui évoque quelque chose qui est douloureux, peut pleurer dans le groupe de parole. C'est quelque chose qui est acceptable. Et chacun, du fait de la bienveillance à laquelle chacun s'engage quand il rejoint le groupe, chacun accepte ce moment de tristesse, cette émotion, et puis elle s'estompe parce que l'un va chercher un mouchoir, l'autre va donner un peu à boire, un verre d'eau. Du coup, ces gestes viennent contenir la tristesse, et petit à petit, le groupe reprend son cours, et c'est quelque chose qui est accepté, et la colère aussi.
C'est la force du groupe, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces autres personnes qui vont venir dire un mot apaisant, effectivement, comme dit Jean, apporter la boîte de mouchoirs. Et c'est des gestes qui, comme ça, ont l'air de rien, mais qui réconfortent. Mmh. Le groupe est très contenant. C'est un petit peu le rôle du groupe, mais le groupe est très, très contenant et contient effectivement toutes ces manifestations émotionnelles qui peuvent être difficiles. Alors parfois, il y a des personnes qui sont très mal et qui peuvent quitter le groupe parce qu'à un moment donné, c'est trop compliqué pour elles de rester. Et c'est tout l'intérêt d'être deux, voire trois dans un groupe de parole, c'est qu'à ce moment-là, un psychologue sort avec la personne pour pouvoir... on ne laisse jamais partir quelqu'un tout seul, on l'accompagne pour qu'il puisse revenir dans le groupe, ou en tout cas partir de manière plus sereine. Ouais.
Alors vous êtes, je suis donc avec Madame Bilouet et Monsieur Gasquel, qui sont psychocliniciens, là en l'occurrence dans le cadre du centre hospitalier Chartreuse, et nous parlons d'un groupe de parole pour hommes victimes de violences sexuelles. Vous parlez de vous deux, c'est-à-dire que c'est un choix d'être un homme et une femme dans ce type de travail.
Absolument.
Et peut-être nous l'expliquer, l'expliquer le sens que ça a.
Alors dans les deux, on va déjà parler de la configuration dans le groupe de parole pour les femmes victimes de violences sexuelles. Le fait qu'il y ait un thérapeute masculin vient apporter, la manifestation du fait qu'un homme puisse être bienveillant et que tous les hommes ne sont pas des agresseurs. Il n'y a pas dans cette démarche l'idée de vouloir réhabiliter l'homme aux yeux de femmes qui ont été victimes de violences sexuelles. L'idée, c'est que, de fait, la société est composée d'à peu près 50% d'hommes et 50% de femmes, et que les femmes victimes de violences sexuelles sont, de fait, confrontées au quotidien à des hommes. Ça leur est parfois extrêmement difficile, et que le fait d'avoir cette expérience dans un groupe de parole, d'avoir un homme bienveillant présent, les aide dans leur vie quotidienne à supporter la présence d'autres hommes, les aide dans leur vie professionnelle à être confrontés à d'autres hommes, etc. Donc c'est un facteur thérapeutique de ce point de vue-là.
C'est une lecture théorique que vous faites, qu'on comprend très bien d'ailleurs. On entend bien vos propos, mais est-ce que des dames l'ont exprimé ?
Alors, effectivement, les personnes se rendent compte que petit à petit, ça les aide dans leur vie quotidienne à cohabiter avec des personnes de l'autre genre. Mmh. Et sur les vidéos dont on a parlé tout à l'heure, qu'on peut retrouver sur Internet, il y a une de ces vidéos qui est consacrée à ça, et les personnes qui ont participé à ces groupes de parole pour femmes victimes de violences sexuelles expriment effectivement le bienfait que ça a pu leur apporter.
Ça peut être compliqué au début, hein, la présence d'un homme, parce que parfois elles sont dans l'évitement, hein, de la rencontre avec un homme. Et puis progressivement, ça leur permet effectivement d'expérimenter le fait que d'être d'être à proximité d'un homme, ben, il n'y a pas de danger. Donc ça vient aussi casser cette peur que tous les hommes pourraient être des agresseurs potentiels. Alors effectivement, hein, ce qui apaise, c'est que l'homme présent est psychologue, est un soignant, mais quand même, ça leur permet d'éprouver ça, d'être à proximité d'un homme qui prend en charge des femmes victimes. Et c'est très très bénéfique.
Alors pour les hommes, quelle importance y a
pour les hommes, pour les hommes, il se trouve qu'on fonctionne comme ça, on est tous les deux à avoir monté ce groupe, donc du coup on continue à fonctionner comme ça.
D'accord.
On a peu de recul par rapport à ça pour les hommes, donc l'avenir va peut-être nous le dire. Mm-hmm. Quel est le bénéfice, s'il y a un bénéfice justement d'avoir un binôme de thérapeute.
Oui, vous continuez, puisque c'est aussi l'histoire de votre projet global.
Oui, puis je pense que le fait d'être un binôme mixte, ça donne aussi une complémentarité dans la visibilité, dans la vision aussi qu'on a des choses. Et puis, on a des ressentis qui peuvent être différents, complémentaires. Et moi, je trouve que c'est une richesse, effectivement, d'être un binôme mixte sur un groupe de parole.
Et pour les femmes victimes de violences sexuelles, d'avoir un thérapeute homme, c'est aussi important parce que c'est important pour elles de dire à un homme ce que d'autres hommes leur ont fait. Et il y a ce qu'on appelle aussi la dimension phorique, c'est-à-dire que cet homme-là peut également, comme on le fait aujourd'hui, témoigner auprès du grand public, auprès des autres hommes, de ce qu'elles ont dit, de ce qu'elles ont vécu, de leur souffrance. Et ça, je crois que c'est aussi important et qu'elles ont intégré cette dimension-là.
En termes de reconnaissance.
En termes de reconnaissance, voilà. On sort de l'entre-soi, on n'est pas que entre femmes, on dit à un homme, regarde ce qu'un autre homme m'a fait. Et ça, je crois que c'est extrêmement important et ça a une portée thérapeutique également.
Donc les vidéos que vous avez faites permettent justement aux gens, parce que je ne les connais pas encore, de s'exprimer. Nous verrons peut-être un jour que l'atelier de la radio pourrait servir à ça, puisqu'on le fait avec d'autres groupes dans d'autres domaines de la vie sociale. Mais effectivement, sortir de l'entre-soi paraît fondamental.
Tout à fait.
Donc si on revient sur ce groupe d'hommes, puisque nous parlons essentiellement de la création du groupe de parole pour hommes victimes de violences sexuelles, qui est né, mais qui se développe et qui va prendre toute son ampleur, peut-être résumer un petit peu l'histoire de ce groupe et surtout sa vocation et votre ambition pour la suite.
Le premier objectif de ce groupe, c'est d'être thérapeutique, c'est-à-dire de proposer aux hommes un dispositif de soins, qui soit un dispositif groupal parce qu'on connaît le bénéfice thérapeutique du groupe. Et puis parce que, effectivement, c'est peut-être plus compliqué pour les hommes de venir aux soins, même en individuel, et que peut-être le soutien du groupe, la contenance du groupe pourrait permettre à des hommes de venir aux soins sur ces sujets-là. Et donc l'idée, c'est pas effectivement que les hommes viennent, mais comme pour le dispositif pour les femmes, viennent raconter dans le détail ce qu'ils ont vécu, mais puissent venir travailler sur les conséquences et sur les difficultés qu'ils éprouvent aujourd'hui dans leur vie actuelle, en référence effectivement aux violences qu'ils ont subies enfants ou adolescents. Parce que c'est des violences qui peuvent impacter toute une vie.
En rappelant que vous faites en sorte que la personne puisse avoir un travail individuel avec un psychologue ou un psychiatre, un thérapeute, pour continuer son chemin de vie. Parce que semble-t-il, il faut du temps, puisque souvent les choses sont assez anciennes, d'après ce que vous avez dit tout à l'heure. Parfois, il y a l'enfance ou à la préadolescence, ce qui veut dire qu'il faut du temps, j'imagine, pour sortir de tout ça. En tout cas, on le connaît dans d'autres domaines. Pour les auteurs de violences, on sait que rien ne peut se faire en dessous de 3 à 5 ans de travail. Les Canadiens l'ont démontré dans leur travail. Les associations spécialisées sur la France disent à peu près la même chose. Donc je pense que pour vous, c'est un petit peu du même ordre.
Alors après, c'est effectivement, c'est quelque chose, c'est un processus, donc ça demande du temps. Et puis ce temps, c'est le temps psychique qui est lié à chaque histoire de vie. Et des personnes vont avoir besoin de 2-3 ans, d'autres beaucoup plus. Il y a tellement de facteurs différents qui rentrent en ligne de compte que c'est difficile de dire il faut tant d'années pour s'en sortir. Tout ça dépend vraiment de chaque individu.
Vous vouliez compléter ?
Pas vraiment compléter, mais du coup, je pensais que c'était peut-être important de préciser les moments et la fréquence de réunion de ce groupe.
Oui, tout à fait. Surtout qu'on le mettra sur le site internet.
Voilà, donc en fait, c'est un groupe qui aura lieu tous les 15 jours qui durera 1h30 et qui aura lieu le jeudi en fin d'après-midi. On n'a pas encore exactement précisé l'heure de tenue de ce groupe, enfin ça sera en fin d'après-midi. Et il faudrait pouvoir appeler pour prendre contact avec nous et avoir un rendez-vous. Donc c'est le CMP, je crois, le numéro.
Donc s'adresser au CMP au 03 80 78 00 44.
Nous mettrons évidemment toutes les références sur le site internet. Alors tout ça veut dire aussi du temps. Le temps, c'est de l'argent. Et on parle beaucoup actuellement des difficultés de financer le champ du sanitaire et du social. Il y a des réalités qui sont quand même assez difficiles. Ce qui est encourageant, c'est de voir que, puisque vous dépendez là du secteur public, de voir que des groupes, des choses innovantes peuvent exister, se développer, parce que ça demande quand même du temps et des moyens, en espérant que ça puisse se généraliser. Bon, on n'a pas de vision, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne sait pas trop. Il faudrait faire un recueil de données sur tout ce qui existe, parce que je pense que si vous avez pris des initiatives ici à Dijon, c'est que d'autres qui ont les mêmes parcours que vous, les mêmes volontés que vous d'aider les gens qui ont connu ce type de difficultés, le font. Mais bon, en tout cas, c'est tout petit en quantité comme ça. Mais je pense que sur le fond, c'est fondamental et ça fait un peu résonance. On va essayer à la radio de reparler de ces questions-là pour faire le lien entre, on va dire, les grands chiffres, le grand discours médiatique autour de cette question des violences sexuelles et les réalités de terrain qui font que des gens puissent rentrer dans des parcours de soins et des parcours qui leur permettent de vivre mieux et de ne pas, comme vous en avez parlé tout à l'heure, reproduire par exemple aussi eux-mêmes ces comportements qui peuvent amener le malheur d'autres personnes.
Oui, puis de vivre enfermé dans des symptômes qui contraignent beaucoup la vie quotidienne, hein, qui empêchent parfois les gens d'avoir une vie sociale adaptée, voire une vie professionnelle.
Il enfin, y a des choses qui se font aussi ailleurs, puisqu'on est souvent contacté par des psychologues d'autres villes en France pour nous dire « Ah, on a entendu parler de ça, vous faites ça, on aimerait bien le faire. » Voilà, et on échange et on les aide à monter également des actions dans leur région. Donc c'est sûr qu'il y a des choses qui se développent.
Oui, ça va être d'autant plus important et nous, on est très heureux de vous rencontrer dans le cadre de l'émission Gazelle Montfer, parce que je crois que enfin, il y a des choses qui se disent, qui s'écrivent. Il y a des livres très importants qui sortent, hein, d'histoire personnelle. Il y a des livres de sociologie aussi d'un bon niveau. Et je crois que là, il va falloir prendre le taureau par les cornes et faire en sorte que la société produise des moyens pour déjà s'occuper des gens qui vont mal,
tout à fait.
Qui parfois compliquent leur vie, mais aussi la vie des autres. Et puis des générations futures pour peut-être limiter, on ne réglera jamais rien totalement, mais pour limiter ces comportements extrêmement violents et qui sont, on pense, plus répandus que les statistiques officielles actuellement, oui, qui partent bien évidemment des réalités de plaintes ou de gestion.
Et je crois qu'effectivement, la société timidement, hein, mais la société doit sortir du déni, parce que ces violences-là, elles existent depuis, je dirais, l'aube de l'humanité, mais il faut vraiment aujourd'hui que la société sorte du déni de l'existence de ces violences et se donne les moyens d'aider les personnes et aussi de faire de la prévention.
Oui, puis sortir d'une idée, je vais dire quelque chose de banal, mais je parlais récemment avec des amis qui ont connu l'internat, parce que les internats ont été souvent difficiles pour beaucoup d'entre eux. Alors, ils arrangent, certains sont très bien sortis, mais ils s'arrangent pour, tourner ça en dérision, des histoires de mecs, quoi. Hein, des excès de comportement parce qu'on a bu un peu d'alcool ou parce que quand on est jeune on fait un peu n'importe quoi, faut que jeunesse se passe, etc. Enfin, beaucoup de choses pour couvrir des choses, alors qu'on voit bien que certains de ces individus qu'on peut connaître les uns les autres ont des parcours difficiles et parfois des comportements très étonnants qu'on ne comprend pas et que même parfois ne comprennent pas, vous l'avez dit tout à l'heure.
Mais ça peut être aussi défensif, hein, de minimiser, de banaliser, alors qu'en fait, ça peut créer des souffrances à long terme très, très, très graves, quoi.
Vous avez parlé des internats, notamment des écoles catholiques sous contrat, ou pas sous contrat d'ailleurs parfois, mais l'ensemble des internats, je pense, sont concernés.
Et beaucoup d'institutions, en fait. Hein, on le voit dans le sport, notamment. Hein. Alors, il existe une association, hein, qui a été créée par des sportifs et qui prennent en charge alors je ne sais pas de quelle manière, mais qui en tout cas s'occupe des victimes de violences sexuelles dans
Vous
le sport.
Vous parlez de Colosse au pied d'argile, peut-être, qui est une très belle association qu'on va bientôt rencontrer.
Oui. Oui. Voilà. Et qui se... Parce qu'effectivement, on sait que dans le sport, il y a eu énormément de violences sexuelles, soit dans le tennis, le foot, le rugby. Puis il y a eu des films aussi. Il y a un film qui est sorti... qui doit s'appeler le Colosse au pied d'argile.
Je ne sais plus, c'est une gymnaste ou une tenniswoman qui un beatball qui est une des premières qui a.
Non, l'histoire là, c'est l'histoire d'un petit garçon qui fait du foot et qui est abusé par son coach sportif.
D'accord. Ouais. On essaiera de retrouver le titre. En tout cas, sur Dijon, il existe des activités de soins destinées à l'ensemble de la population et notamment. Monsieur Gasquet, Madame Bilouet, vous venez de nous parler du groupe de parole pour hommes victimes de violences sexuelles que vous avez créé, qui se développe, qui atteint maintenant une maturité pour pouvoir très bien fonctionner.
Et qui démarre en septembre.
Voilà, en septembre donc, 2025, qui accueille des hommes ayant subi des violences sexuelles dans l'enfance ou à l'âge adulte. Hein, vous en avez parlé tout à l'heure, inceste, viol, attouchement, agression sexuelle, etc. Groupe important s'il en est pour que ces personnes retrouvent une vie plus équilibrée, se engage à un processus thérapeutique. Et donc, en tout cas, même à Dijon, il existe des choses innovantes importantes et il ne faut pas les louper. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous.
Merci à vous également.
Et à très bientôt pour faire le point dans quelques mois sur le développement de votre groupe et vos liens avec d'autres actions similaires, au moins dans la région. Nous en reparlerons. Merci beaucoup.
Merci à vous également. De nous avoir accueillis.
Entrevue. Radio Shalom Bourgogne 97.1 FM.